Comment croire à des dogmes définitifs? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. C'est un fait. Les gens bornés ne se remettent jamais en question. Tandis que les scientifiques n'hésitent pas à émettre de nouvelles hypothèses pour rendre compte des faits nouveaux qu'ils découvrent. Alors, pourquoi l'Église ne remet-elle jamais en question les vérités auxquelles elle demande à ses fidèles de croire? Pourquoi un tel conservatisme? Pourquoi une telle prétention à énoncer des dogmes définitifs auxquels il faudra adhérer jusqu'à la fin du monde? Effectivement, l'Église catholique continue à croire imperturbablement à un certain nombre de vérités qu'elle a toujours considérées comme fondamentales et qu'elle appelle des dogmes. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie, sauveur de tous les hommes, réellement présent dans l'Eucharistie, etc. Elle nous demande de croire, comme dans les siècles passés, à l'existence des anges, du démon, du ciel, du purgatoire et de l'enfer. Par contre, elle se garde bien d'ériger en dogme des hypothèses qui sont formulées à un certain moment par des théologiens et qui finissent par être abandonnées. Pensons à l'existence des limbes dans lesquels s'en seraient allés les enfants morts sans avoir reçu le baptême. Pour accepter cette prétention doctrinale de l'Église qui paraît exorbitante à tant de nos contemporains, il faut bien comprendre que ce pouvoir étonnant que Jésus a confié à ses apôtres et à leurs successeurs de guider les fidèles dans les choses essentielles de la foi est en parfaite cohérence avec sa venue sur terre. Les chrétiens ont en effet l'audace de croire que Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu en personne, qui est venu parler aux hommes de ce qui se passe dans le ciel. Nous croyons que Dieu lui-même nous a confié des secrets incroyables mais vrais sur sa vie intime et notre destinée. Et heureusement, il a confié à ses apôtres et à leurs successeurs la charge de guider les fidèles dans leur foi. Comment pourrions-nous être sûrs d'avoir un vrai contact avec son corps et son sang dans chaque Eucharistie? Si l'Église ne nous disait depuis toujours qu'il fallait prendre à la lettre les paroles qu'il prononça un soir sur le pain et le vin, « Ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. » Pourquoi ne prenons-nous pas ces paroles de façon purement symbolique? Eh, parce que l'Église a toujours considéré comme essentiel ce réalisme de l'Eucharistie. Il est vrai qu'à force de méditer l'Écriture, les chrétiens y découvrent des trésors que leurs aînés n'avaient pas encore aperçus. Jésus nous en avait d'ailleurs avertis. L'Esprit vous conduira vers la vérité tout entière. Il a fallu du temps pour que le théologien accepte ce que le peuple de Dieu avait découvert à force de saluer Marie avec les paroles de l'ange, à savoir que la Vierge Marie était tellement pleine de grâce qu'elle n'avait même pas été touchée par le péché originel. Aux yeux d'un saint Bernard ou d'un saint Thomas d'Aquin, cette idée paraissait s'opposer à une affirmation fondamentale de la foi chrétienne, à savoir que le Christ s'était offert en sacrifice pour le salut de tous. Marie, disaient ces théologiens, ne peut donc pas faire exception, c'est aussi pour elle que le Christ a souffert la passion. Et voici qu'un peu plus tard, un franciscain écossais, Duncot, surnommé docteur subtilis à cause de la subtilité de ses idées, trouve la distinction qui va réconcilier les théologiens avec la foi populaire à l'Immaculée Conception. Marie, disait-il, a été sauvée, elle aussi, rachetée, dira le Concile Vatican II, mais non pas par mode de guérison, mais par mode de préservation. Et grâce à cette petite distinction, les théologiens accepteront de plus en plus cette thèse, les franciscains s'en feront les ardents défenseurs, jusqu'au moment où, sans aucune difficulté, le pape Pie IX proclamera solennellement ce dogme le 8 décembre 1854. Ce développement des dogmes faisait déjà l'admiration de saint Vincent de Lérins au 5e siècle. Il le comparait à la formation progressive d'un corps humain. Certains membres n'apparaissent que bien après la naissance. Une réflexion qui aida Newman à rejoindre l'Église catholique. Il réalisa que tous les dogmes auxquels elle croyait, cette Église, et notamment ce qu'elle affirmait au sujet de la Vierge Marie et du purgatoire, étaient en parfaite cohérence, en parfaite consonance avec tout l'ensemble du mystère chrétien.